Bonsoir et bienvenue dans cette édition du 19h. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information dans l'actualité ce soir. Incident diplomatique grave entre l'Europe et la Biélorussie. Minsk a détourné un avion de Ryanair transportant un opposant au président Loukachenko. Colère de Jean-Yves Le Drian qui dénonce un acte inacceptable et demande à l'Europe une réponse ferme. L'Italie, endeuillée par un terrible accident de téléphérique, 13 personnes au moins sont mortes dans la chute d'une télécabine. Olivier Tosseri dans un instant. La question des vaccins pour adolescents Moderna va demander une autorisation de mise sur le marché en Europe. Dans ce journal également, Emmanuel Macron reçoit McFly et Carlito à l'Elysée. Les intermittents du spectacle déménagent de l'Odéon au 104, un autre lieu de culture à Paris. Et Marseille qui connaît sa première journée sans voiture sur la Corniche.
Être dans ce silence sur une rue comme la Corniche, c'est juste exceptionnel.
On reprend un petit peu la place, on prend la place de la voiture et on se sent bien.
Vos rendez-vous du 19h, la page sport avec l'épilogue ce soir de la saison de Ligue 1 de football. Lille, près du but et du titre de champion. Et le Grand Prix de Formule 1 de Monaco, victoire du Néerlandais Verstappen. Notre coup d'œil sur l'agenda avec les temps forts de l'actualité à suivre la semaine prochaine. Et comme tous les dimanches soirs, c'est mon actu, Sandrine Houdin, témoignage de Grégory et Boubacar, 200 abris qui vivent la crise sanitaire à l'inverse de millions d'entre nous. La météo perturbée avec des orages sur le nord, Jean-Michel Goulin. À la fin de cette édition et à 19h30, les petits bateaux Noël Bréham.
Bonjour, je m'appelle Ludovic. Je voudrais savoir pourquoi tout n'est pas gratuit.
Les petits bateaux Noël Bréham.
France Inter.
L'Italie, sous le choc d'un épouvantable accident de téléphérique avec un bilan très lourd, 13 personnes sont mortes, au moins il y a 2 blessés graves, 2 enfants de 9 et 5 ans. L'accident s'est produit en milieu de journée près de Strezza, dans le Piémont, sur les rives du lac Majeur au nord de l'Italie. En direct de Rome, on retrouve notre correspondant Olivier Tosseri. Bonsoir Olivier, le câble de la télécabine a cédé à 100 mètres du sommet.
Oui, à quelques mètres avant de parvenir au sommet qui culmine à près de 1500 mètres, les deux enfants blessés ont été transportés en urgence absolue à l'hôpital pédiatrique de Turin. La zone boisée avec une forte inclinaison a rendu difficile le travail des secours. L'accident, vous l'avez dit, serait dû à la rupture d'un câble sur la partie la plus haute du parcours. Cette ligne téléphérique, prisée des touristes, avait pourtant fait l'objet de rénovations en 2016. Les câbles avaient été examinés, les cabines avaient été démontées, reconditionnées et remises à neuf. Après la fermeture suite à la pandémie, la ligne avait repris du service le 24 avril dernier. Une enquête sera ouverte pour établir les causes de l'accident, mais rien ne laissait présager une telle tragédie.
Rome, Olivier Tosseri, merci et excusez-nous pour les quelques coupures dans la liaison. L'affaire est en train de provoquer un grave incident diplomatique et la colère de l'Europe. La Biélorussie a forcé un avion de ligne à atterrir à Minsk sur ordre du président Loukachenko. L'avion de Ryanair transportait un opposant qui a été arrêté. La France dénonce un acte inacceptable et demande une réponse ferme et unie des Européens. Explication à Moscou, Claude Brouillot.
D'après le site d'information indépendant Medusa, classé agent de l'étranger par les autorités russes, l'avion de Ryanair, dans lequel avait pris place Roman Protasevich, s'approchait de la Lituanie quand il a fait demi-tour pour atterrir à l'aéroport de Minsk au Bélarus. Medusa cite également des sources officielles locales selon lesquelles Alexandre Loukachenko, l'inamovible numéro 1 du pays depuis 27 ans, a ordonné en personne le décollage d'un MiG-29 de l'armée pour escorter l'appareil de Ryanair jusqu'à son arrivée à Minsk. Officiellement, Protasevich fait partie d'une liste de personnes recherchées par les autorités du Bélarus pour avoir, en tant que journaliste, organisé via sa chaîne Nexta des manifestations hostiles à Loukachenko après sa réélection d'août 2020, contestée pendant 6 mois par des rassemblements d'une intensité jamais vue au Bélarus. Apprenant la nouvelle de l'arrestation de Protasevich, Yulia Tikhanovskaya, l'opposante numéro 1 au régime, en exil à Vilnius en Lituanie depuis 9 mois, a dit craindre pour la vie de l'intéressé. Le Bélarus est le dernier pays européen à pratiquer encore la peine de mort. Moscou, Claude Brouillot, France Inter.
La question des vaccins pour les adolescents en France, aucune décision n'a été prise pour l'instant. Aux États-Unis, où la vaccination a été étendue aux adolescents à partir de 12 ans, les autorités sanitaires indiquent que de très rares problèmes cardiaques ont été rapportés sans que le lien avec le vaccin contre le coronavirus soit établi. Ce matin, le patron de la société américaine Moderna, le français Stéphane Bancel, annonce qu'il va demander début juin l'autorisation en Europe de son vaccin pour adolescents. En France, la vaccination progresse, 23 millions de personnes ont reçu une première dose. Et les indicateurs sont rassurants. Le nombre de patients Covid hospitalisés est passé sous la barre des 20 000 malades. C'est la première fois depuis 7 mois. Les Français profitent donc de ce week-end de Pentecôte et d'une partie des libertés retrouvées depuis mercredi dernier. Les terrasses notamment ont rouvert. Quelques manquements ont pu être observés. Certains restaurateurs se sont un peu arrangés avec les règles des terrasses éphémères. L'heure est maintenant au contrôle. À Paris, la direction départementale de la protection des populations patrouille pour vérifier le respect des règles. Reportage Maureen Signard.
Depuis la réouverture du Café du Temple, Daniel, le gérant, est tout sourire, et cela malgré un protocole sanitaire strict et même un contrôle de police.
Ils n'ont pas venu direct avec le cahier pour mettre des amendes ou je sais pas quoi. Non, ils ont fait de la pédagogie, ça me paraît bien, pour le premier ou le deuxième ou le troisième jour.
Une jauge de 50% pour les terrasses, pas plus de 6 par table, de l'espace aussi entre les clients. Mais quand des trombes d'eau se mettent à tomber, beaucoup se regroupent sous les stores.
Mais une fois que le soleil revient, on leur demande de se remettre à leur place, parce que sinon ça va être trop serré et on ne respecte plus les gestes barrières.
Les terrasses ne doivent aussi pas trop empiéter sur l'espace réservé aux piétons, raconte Florian, serveur dans une pizzeria.
Nous, on a l'autorisation de se mettre sur la grande terrasse en face, qui a une place, mais voilà, c'est vrai qu'entre nos tables, on a obligation de laisser le passage pour que les gens puissent profiter de la place.
Et certains ont déjà reçu des avertissements à ce propos. Puis il y a l'heure fatidique, 21h où tous les clients doivent être partis. Certains patrons comme Youssef du Banco Bar s'en accommodent, il comprend les éventuelles sanctions.
C'est PV, c'est celui qui ne respecte pas, c'est logique.
Il vaut mieux des jauges et des contrôles plutôt que rien, ajoute Youssef, lui qui espère que tout se passera au mieux pour pouvoir accueillir comme prévu des clients à l'intérieur le 9 juin prochain.
Un concours d'anecdotes peu commun ce matin à l'Élysée qui fait réagir. Emmanuel Macron s'est prêté au jeu des youtubeurs McFly et Carlito. Le président et les deux stars de YouTube se sont donc livrés à des blagues entre football et concerts de métal. La vidéo totalisait plus d'un million de vues. 3 heures après sa mise en ligne, Yannick Jadot, redéputé Europe Écologie Les Verts, était à la mi-journée l'invité de Questions Politiques sur France Inter. Et il a commenté avec ironie la performance du chef de l'État.
J'entends souvent les critiques vis-à-vis des Verts. Certes, les militants écologistes sont parfois rugueux. Ils n'ont pas des influenceurs, des youtubeurs ou des agences de com pour penser « make the planet great again ». Mais à la différence du président de la République, les écologistes, ils agissent. Ce que fait le président de la République, c'est pour compenser le manque d'action. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de mettre le RSA pour les jeunes. Il y a des jeunes qui font encore des files d'attente pour accéder à un colis alimentaire. Et ce qu'ils proposent, c'est de parler à des animateurs télé et à des influenceurs pour essayer de reconquérir l'électorat jeune. Ces jeunes, ils ont une extraordinaire envie de contribuer à l'évolution de notre société, à sa reconstruction, à sa réparation. Ouais. Et c'est pas en faisant des clips d'influenceurs qu'on va les aider, ni dans leurs difficultés sociales, ni dans leurs aspirations.
Yannick Jadot avec Ali Badou, et selon le baromètre IFOP pour le journal du dimanche, la cote de popularité d'Emmanuel Macron a atteint en mai 51% chez les 18-24 ans, en hausse de 8 points en un mois, contre 40% pour l'ensemble de la population, en hausse là également de 3 points. Les intermittents du spectacle changent de lieu d'occupation après avoir quitté ce matin le Théâtre National de l'Odéon. Ils ont investi la salle parisienne du 104 dans le 19e arrondissement et qui était également un centre de vaccination, un lieu culturel plus vaste où ils entendent continuer à faire pression sur le gouvernement pour qu'il retire son projet de réforme de l'assurance chômage. Denis Gravouille, secrétaire général de la CGT Spectacle, avec Stéphane Capron.
On est resté 80 jours à l'Odéon avec une grande inventivité. On a bien l'intention de continuer à nous faire entendre, à réussir des actions ponctuelles et des manifestations plus importantes. Donc nous avons quitté l'Odéon et nous sommes entrés au 104, qui est un grand lieu culturel d'un quartier populaire de Paris. Parce qu'évidemment, la lutte continue contre la réforme d'assurance chômage qui va toucher des gens très précaires et donc particulièrement dans ce quartier. Et évidemment, pour des sujets qui concernent notamment le spectacle, puisque la reprise qu'on a n'est pas une reprise complète et qui ne permet pas à tout le monde de retravailler normalement, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire facilement. Ça fait des mois qu'on dit à la ministre de la Culture, faites en sorte qu'il y ait un vrai plan de reprise pour permettre à tout le monde de travailler, et on nous annonce rien sur ce sujet-là, ou des toutes petites sommes qui ne vont pas servir à faire travailler plus que 2 ou 3 jours ceux qui n'en peuvent plus de ne pas travailler depuis le mois de mars 2020.
Denis Gravouille, secrétaire général de la CGT, avec Stéphane Capron. L'image peut sembler banale à Paris ou à Lyon, moins à Marseille, qui a connu son premier dimanche sans voiture à Marseille, avec l'entrée en vigueur d'un bordel de mer et d'une corniche piétonne. L'opération va se poursuivre au rythme d'une journée par mois. La tendance est d'aller vers une réduction de la place de la voiture au cœur des villes. Un événement à Marseille. La corniche est débarrassée des voitures, indique la mairie. Reportage Elisa Montagna, France Bleu Provence.
La corniche Kennedy, sans voiture. Un changement notable, remarque Nassia. Elle fait partie d'une association de médiation sociale et gère tous les jours les conflits sur cette promenade.
Quand il y a les voitures, les gens sont plus énervés. Il y a beaucoup de piétons qui traversent mal, ça klaxonne de partout, ça insulte. Des fois, il y a deux bus, il y a des voitures qui veulent dépasser, donc franchement, c'est dangereux.
Mais ce dimanche, aucun danger. Un bonheur pour Magali qui a emmené ses deux enfants pour une balade en vélo sur la corniche Kennedy. D'habitude, c'est hors de question.
Beaucoup plus rassurée parce que bon, il n'y a pas le stress de regarder les voitures à gauche, à droite.
Bonheur aussi pour Myriam et Chloé, marseillaises en tenue de sport. D'habitude, elles courent. Aujourd'hui, elles marchent.
Être dans ce silence sur une rue comme la corniche, c'est juste exceptionnel.
On reprend un petit peu la place, quoi. On prend la place de la voiture et on se sent bien.
Marie-Hélène vient de Vitrolles exprès. Son fils l'a invitée pour une balade en vélo pour l'occasion. D'habitude, elle ne mettrait pas un pied à Marseille.
Oh là là, m'en parlez pas. Les bouchons, les voitures, non, stop.
Quand on passe en voiture, on n'apprécie pas forcément le paysage. Et là, en vélo, on prend le temps. Et honnêtement, j'ai découvert de nouveaux trucs que j'avais jamais vu avant.
Malheur en revanche pour les motards et les automobilistes qui se retrouvent bloqués au début du parcours piéton.
Très mécontent. Aucun panneau, aucun signalement, rien du tout.
Malheur aussi pour les commerçants, selon Ali qui tient une supérette sur la promenade Kennedy.
Plus que 70% de pertes, surtout le dimanche. Ça tue le commerce.
Et la ville de Marseille envisage de réitérer l'opération une fois par mois sur le littoral.
Elisa Montagna, France Bleu, Provence. Après la polémique, le dépistage de drogue, Damiano David, le chanteur du groupe italien Maneskin, qui a remporté l'Eurovision hier soir, va donc subir un test dès son retour en Italie. Le chanteur est accusé d'avoir consommé de la cocaïne en direct hier soir, ce que nie le chanteur avec force. Et pour calmer l'affaire qui a enflammé les réseaux sociaux, il va donc se soumettre à un test. Et puis demain matin, Barbara Pravi, arrivée deuxième à l'Eurovision, sera l'invitée de Léa Salamé à 7h50. Sur France Inter, la page sport de cette édition. Bonsoir Guillaume
Bonsoir,
Batin.
Bonsoir Frédéric.
Et donc c'est le grand soir pour la Ligue 1, le soir du dénouement pour le titre de champion de France entre Lille et le Paris Saint-Germain.
Oui, mais Monaco peut aussi gagner le titre mathématiquement. Marseille, Lens, Rennes luttent pour une place en Coupe d'Europe et puis Bordeaux, Strasbourg, Nantes, Brest et Lorient veulent éviter la 18e place synonyme de barrage. Il y a du suspense à tous les étages. Pour le titre, Lille a son destin en main. Faire mieux ou le même résultat à Angers que le PSG à Brest et le LOSC deviendra le troisième club à contester la domination parisienne depuis le rachat par les fonds du Qatar il y a 10 ans. Bonsoir Jean-Pierre Blimeau.
Bonsoir Guillaume.
Vous êtes en direct d'Angers et vu les statistiques des Lillois cette saison, sur l'ensemble de la saison, le titre de champion ne se serait pas volé.
Oui, alors il y a eu Montpellier, hein, emmené par Olivier Giroud en 2012. Monaco, 5 ans plus tard, dans le sillage de Kylian Mbappé, révélation de la saison 2016-2017. Un Mbappé et un AS Monaco qui dominent le PSG où Zlatan Ibrahimovic était pourtant l'arme absolue pour sa dernière saison dans la capitale. 4 ans après, il y aura donc peut-être Lille ce soir. Ce serait un authentique exploit, explique l'entraîneur lillois Christophe Galtier, à 90 minutes d'obtenir un 4e titre historique pour les Lillois, avec le PSG comme principal rival. 10 ans après avoir dominé Marseille, Lille obtiendrait aussi, vous l'avez dit, une récompense vraiment peut-être méritée après une saison historique, avec seulement 3 défaites pour 8 côté parisien. Lille est l'équipe qui a le moins perdu. Toujours en championnat, Lille a dominé les Parisiens avec 1 nul et 1 victoire, malgré la présence de joueurs hors normes au PSG comme Mbappé ou Neymar, malgré une moins bonne attaque, mais avec la meilleure défense du championnat. Lille s'est aussi montré plus régulier et a occupé 18 fois la place de leader, le PSG, à 9 reprises. Et puis d'ailleurs, Lille est leader depuis cette fin de saison, depuis la 31e journée, Guillaume.
Jean-Pierre Blimeau en direct du stade Raymond Coppa pour France Inter. Oui, mais le Paris Saint-Germain, vainqueur de la Coupe de France cette semaine, n'a pas dit son dernier mot pour le championnat. Bonsoir Alexandre Vaux.
Bonsoir Guillaume.
Vous êtes à Brest, qui sera l'adversaire des Parisiens ce soir. Les hommes de Mauricio Pochettino, l'entraîneur, veulent y croire jusqu'au bout. Une victoire du PSG, un nul ou une défaite de Lille et l'affaire est faite.
Oui, malgré la pluie et les bourrasques de vent, mais effectivement, Paris retrouve confiance après avoir remporté, vous l'avez dit, sa 14e Coupe de France mercredi soir contre Monaco. Dans le sillage, on n'invente rien, mais c'est aussi une dimension d'un Kylian Mbappé, meilleur buteur de la Ligue 1 cette saison, qui n'arrête plus de marquer. Puis les retours aussi ce soir de Neymar et Kimpembe. Dynamique inverse à Brest, qui n'a plus gagné à domicile depuis le 3 mars et qui doit prendre au moins un point ce soir pour assurer son maintien en Ligue 1, soutenu par des centaines de supporters qui sont venus, là, malgré la météo, encourager les joueurs à leur arrivée au stade. Parce qu'un point suffirait aux Brestois, mais pas aux Parisiens qui veulent gagner pour ne pas avoir de regrets si un quatrième titre consécutif devait leur échapper aux alentours de 23h.
Alexandre Vaux en direct à Brest pour France Inter qui va suivre ce match entre Brest et le Paris Saint-Germain. Tous les matchs, Frédéric, débuteront à 21h.
Alors, on va rester à Angers, on va retourner à Angers pour s'intéresser un peu plus encore à ce club de football qui fait figure d'exception en Ligue 1, le SCO Angers, a gardé le même entraîneur pendant 10 ans. Stéphane Moulin va donc ce soir diriger son 416e et dernier match comme entraîneur d'Angers en football. C'est une longévité exceptionnelle et bien sûr ce soir les joueurs vont vouloir rendre hommage à leur entraîneur Stéphane Moulin. C'est le long format de ce soir, Cédric Guillou.
Stéphane Moulin s'est assis sur le banc de l'équipe première du SCO d'Angers il y a quasiment 10 ans, le 2 juin 2011. Et il n'avait jamais imaginé vivre une telle aventure avec le club angevin.
Quand je m'engage dans ce métier au niveau professionnel, c'est-à-dire en 2011, je me pose pas la question en fait. Je sais que le temps de durée de vie d'un coach au niveau professionnel est relativement court. Et je me dis, j'y vais, je verrai bien le temps que ça durera. Mais bon, je crois que le jeu en vaut la chandelle et j'ai envie d'essayer de voir ce que ça va donner. Donc je me mets aucune pression.
Sous ses ordres, Angers a retrouvé la Ligue 1 en 2015 et est parvenu à se maintenir chaque saison. Le club n'est pas passé loin également d'un sacre en Coupe de France, battu seulement 1-0 en 2017 en finale par le Paris Saint-Germain. Des performances sportives remarquables, mais il ne retient pas que ça.
On m'enlèvera jamais ce que j'ai réalisé. Il y a tout ce que j'ai vécu avec les différentes personnes avec qui j'ai fait ça. J'ai rencontré des joueurs de haut niveau, aidé à leur progression, enfin plein de choses qui aujourd'hui déjà me satisfont.
Avec le SCO, Stéphane Moulin est devenu l'entraîneur à la plus grande longévité parmi tous les techniciens des 5 grands championnats européens. Plus de 400 matchs sur le banc de l'équipe angevine.
Moi, j'ai jamais cherché à durer. C'est que ça s'est fait comme ça. Et c'est ça qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est que j'ai jamais eu de plan de carrière pour dire je vais rester le plus longtemps. Pas du tout.
À bientôt 54 ans, Stéphane Moulin quittera son club en fin de saison pour de nouvelles aventures, sans doute vers Caen. Et il sait déjà quand il arrêtera.
Moi j'ai dit qu'à 60 ans j'aurais fini ce métier. Donc voilà, parce que je pense qu'effectivement on y laisse beaucoup de gomme, comme on dit. Puis aussi laisser la place quoi. Alors c'est pas une question de on est trop vieux, mais je pense que voilà. Ça demande beaucoup de sacrifices et que la vie, elle n'est pas faite que de sacrifices.
Pour son dernier match sur le banc d'Angers, ce soir, Stéphane Moulin prévient « L'enjeu lillois n'est pas notre problème ». Il espère forcément que sa belle histoire avec le SCO se terminera par une victoire.
Stéphane Moulin, entraîneur pendant 10 ans du SCO Angers, Cédric Guillou. Les championnats d'Europe de natation, Guillaume, en Hongrie sont terminés. C'est la dernière compétition avant les Jeux Olympiques de Tokyo dans 2 mois.
Oui, tout rond demain. L'occasion de voir où en sont les nageurs français après une saison contrariée par l'épidémie avec beaucoup de compétitions au calendrier qui ont été annulées. Bonsoir Jérôme Val.
Bonsoir Guillaume.
Vous avez suivi cette semaine de compétition au bord du Grand Bassin de Budapest. On l'entend derrière et parmi les nageurs français les plus attendus, il y avait un certain Florent Manaudou. Il y a un peu plus d'une heure, il était encore au départ du 50 mètres nage libre dans la piscine, mais malheureusement pour lui, il n'a pas eu la réussite qu'il attendait.
Oui, Florent Manaudou qui ne réalise que le 5e temps sur cette allée simple pour sa première finale internationale depuis son retour dans les bassins il y a 2 ans, alors avec un chrono en plus bien en deçà de ce qu'il avait réalisé hier en série et en demi-finale. 21 secondes 81, c'est 20 centièmes de retard sur le vainqueur, le très grand finlandais, très grand par la taille, Ari-Pekka Liukkonen. Hier en demi-finale, pour vous donner une idée, Manaudou avait réalisé sa meilleure performance de la saison en 21 secondes 67. Il n'a pas pu récidiver, alors c'est forcément frustrant, mais pas inquiétant pour le Marseillais à 2 mois des Jeux.
C'est un peu de déception parce que je nage moins vite qu'hier, c'est surtout ça la déception. Et c'est une étape de passé, il reste pas mal de courses, donc à voir. Je pense avoir fait une bonne course et non, c'est pas très bon. Donc, l'année de Rio, je crois que je nage 21-6 au championnat d'Europe, donc ça veut préparer, ça veut rien dire, des courses d'un jour et on verra au bout.
Alors pas de médaille pour Manaudou, mais une en argent sur le 50 mètres papillon pour Mélanie Hennick, autre pensionnaire du Cercle des nageurs de Marseille, sa première depuis 10 ans. Au total, la France va repartir de Hongrie avec 5 médailles, peut-être 6 parce qu'il y a encore une course en ce moment, c'est le relais 4x100, 4 nages. Pour l'instant, les Français ne sont pas trop dans le coup, mais en tout cas, ça fera 5 médailles. On est très loin du bilan des Anglais, des Italiens ou des Russes, mais tout à l'heure, le DTN de la natation tricolore, Julien Isselier, me confiait son optimisme malgré tout pour l'échéance olympique de cet été, et notamment avec la jeune génération qui s'est plutôt très très bien comportée ici dans cette superbe Duna Arena de Budapest.
Jérôme Val en direct de Hongrie pour France Inter, sous les yeux de 7500 spectateurs et de Serena Williams, la championne de tennis qui a agité le drapeau à damier sur la ligne d'arrivée du Grand Prix de France, du Grand Prix de Monaco, pardon, de Formule 1. Lewis Hamilton n'est plus en tête du championnat du monde. Le Britannique qui a terminé à la 7e place s'incline devant Max Verstappen qui signe sa 12e victoire à seulement 23 ans. Première dans la principauté, première fois qu'il est leader aussi au classement général des pilotes. Les Français sont dans les points. Pierre Gasly 6e, Esteban Ocon 9e. 3e du rallye du Portugal, Sébastien Ogier reste en tête du classement général du championnat du monde. Le vainqueur, le Britannique Elfyn Evans, n'est plus qu'à 2 petits points du champion du monde. À noter la belle 6e place du jeune pilote français Adrien Fourmeau, sans doute la relève après les deux Sébastien, Loeb et Ogier. Prochaine course dans 2 semaines en Sardaigne.
Et puis ce drame en Chine lors d'un ultra-trail.
Une sorte de super marathon, 100 km à courir en pleine nature dans la forêt de pierre du fleuve jaune. Les conditions météo se sont dégradées brutalement et le bilan est dramatique. 21 morts parmi les coureurs. Ils sont morts de froid. Shanghai pour France Inter, Simon Leplâtre.
Ils se préparaient à une épreuve, mais ils ont vécu l'enfer. Samedi, 172 coureurs se sont élancés en short et t-shirt à l'assaut de 100 km de chemin dans les montagnes du Gansu, une province accidentée du nord-ouest chinois. Mais en fin de matinée, après une vingtaine de kilomètres de course, le temps s'est fortement dégradé. Pluie glacée, grêle, vent violent, des rescapés racontent qu'ils sont restés prostrés, ne pouvant plus avancer face à la puissance du vent. Après des appels à l'aide de plusieurs participants, la course est annulée, les secours envoyés, mais ils progressent doucement sur un terrain accidenté. Alors que les conditions continuent d'empirer, ce sont un millier de secouristes qui quadrillent le terrain à la recherche des disparus. Dimanche matin, la dernière victime a été retrouvée. Au total, 21 coureurs ont perdu la vie, dont 2 champions chinois de la discipline, morts d'hypothermie pour la plupart. Sous le feu des critiques, le gouvernement local a présenté ses excuses, tête baissée, dimanche matin.
Hong Kong, Simon Leplâtre pour France Inter.
Au tournoi de tennis de Lyon, c'est le grec Stefanos Tsitsipas qui s'est imposé en finale cet après-midi. Il a battu le britannique Cameron Norrie en 2-7, 6-3, 6-3. Demain, c'est le tournoi de qualification de Roland-Garros qui débute. Et puis handball féminin, c'est Brest qui décroche la Ligue féminine. Le Brest-Bretagne handball a battu le club de Metz en finale retour 29-22. C'est un exploit parce qu'en finale aller, les Brestoises s'étaient inclinées lourdement en Lorraine 31-24.
Le journal de 19h. Frédéric Barrère.
À suivre la semaine prochaine, et on ouvre l'agenda des temps forts de l'actualité de la semaine qui vient sur l'agenda politique et législatif. Le rendez-vous à noter mardi avec le vote solennel en première lecture à l'Assemblée du projet de loi pour la confiance dans la justice porté par le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Jean Castex, mardi également, reçoit les dirigeants loyalistes et indépendantistes pour discuter de l'avenir politique et de la Nouvelle-Calédonie. L'actualité à l'étranger la semaine prochaine avec 2 dates importantes. Jeudi, visite d'Emmanuel Macron au Rwanda. Le président s'adressera aux victimes du génocide. L'autre rendez-vous, c'est mercredi. Et l'élection présidentielle en Syrie et les résultats ne fait pas de doute, Valérie Crova.
La question n'est pas de savoir si Bachar el-Assad sera réélu pour un 4e mandat, mais quel sera son score. En 2014, le dictateur syrien avait obtenu 88% des suffrages. Face à lui, 2 concurrents sont en lice, considérés comme des faire-valoir. Les opposants en exil qui auraient pu se présenter ont été exclus de fait par la loi électorale. Celle-ci impose aux candidats qu'ils aient vécu en Syrie au cours des 10 dernières années. Avec la moitié de la population syrienne déplacée à l'intérieur du pays ou réfugiée à l'étranger, cette élection ne se tiendra que dans la partie du territoire contrôlée par le régime et ses alliés russes et iraniens. Environ 40% de la Syrie lui échappe encore dans le nord-est, contrôlé par les Kurdes, et le nord-ouest par les Turcs. Après 10 ans de guerre, le pays est exsangue. La livre syrienne a perdu 98% de sa valeur depuis le début de la guerre. Selon l'ONU, 60% des Syriens sont en état d'insécurité alimentaire. Des Syriens qui n'auront sûrement pas le cœur à aller voter mercredi pour ce qui est convenu d'appeler un simulacre d'élection.
On notera également vendredi sur l'agenda le changement de nom de Total pour Total Énergie lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires. Et on terminera la semaine avec samedi le concert test tant attendu d'Indochine à Paris. Et dans l'actualité, en ce moment, cette campagne en forme d'annonce dans la presse de la Fondation Abbé Pierre, un appel qui prend le contre-pied des préoccupations actuelles de millions de Français qui se réjouissent de pouvoir retourner dans les rues librement, en terrasse, au cinéma ou dans les magasins. Au moment où la France se déconfine, la Fondation Abbé Pierre souhaite rappeler que près de 300 000 personnes sans abri préféreraient rester chez elles. Ces hommes, ces femmes, ces enfants qui continuent de vivre la crise sanitaire à l'inverse de nous tous. Sandrine Houdin a rencontré Boubacar et Grégor, tous les deux à la rue avec Nadia qui s'en occupe pour la Fondation. Grégor, par exemple, 70 ans, très malade, ne pouvait plus brancher son appareil à oxygène dans le hall de l'hôpital où il avait ses habitudes.
Pour dormir la nuit, là-bas, il ne me laissait pas brancher. Parce qu'il dit, à cause de la Covid. Non, pas ici, il dit, monsieur.
En fait, avant le Covid, il vivait dans un hall d'hôpital. Et après le Covid, on lui a demandé de sortir parce que ce n'était pas possible. Pour éviter les risques, on lui a refusé l'accès à une prise pour brancher son appareil respiratoire. Et c'est vital pour lui parce qu'il la trimballe tous les jours avec lui dans un caddie. Toutes les structures étaient fermées avec son appareil respiratoire. C'était très compliqué pour lui.
Oui, c'est vrai ça.
Tous les Français devaient se confiner chez eux, sauf que les sans domicile fixe, leur seul lieu de confinement, c'était le trottoir, c'était la rue.
Vous êtes d'accord avec Nadia ?
Oui.
Sur tous les niveaux, la totale, toute cette période, t'étais pas tranquille. On n'avait pas de masque déjà à la base, pas d'attestation de déplacement. Tu t'assois, tu fais pas 10-15 minutes sans que la police ne vienne vous dire de vous déplacer. Vous êtes sans domicile fixe. Mais ils vous disent, vous restez pas alors là.
C'est vrai, aussi lourd.
Et le couvre-feu demandait encore au centre domicile fixe de rentrer chez eux. Mais où chez eux? Il est où leur chez eux? Il est où?
C'est vrai, tu peux pas rentrer chez toi quand t'as pas un chez toi.
Et maintenant?
Bon, nous on est spectateurs. Pour nous, il n'y a pas de confinement.
Moi, je n'ai pas d'argent pour la terrasse. La terrasse, c'est pour les riches, pas pour nous.
En fait, vous avez vécu tout ça à l'envers des Français.
Oui, à l'envers. Ouais.
Voilà. Premier jour du confinement, on avait dit à tous les Français, rentrez chez vous. Et les sans domicile fixe n'avaient pas de chez eux. Leur chez eux, c'était la rue. Maintenant que tout le monde est dehors, ce public-là, il aspire à être dedans. C'est ça, à rentrer chez eux. Au moment où les Français veulent sortir, les sans domicile fixe veulent rentrer chez eux. Mais ils n'ont pas de chez eux. Il est où leur chez eux? La rue.
Vous pensez donc que cette campagne de la Fondation est bien tombée?
Oui. Si les Français ne se rendent pas compte aujourd'hui de la problématique des gens à la rue, c'est quand? Quand?
Elle a parfaitement raison, parce que si les gens ne nous voient pas en ce moment-là, ils ne nous verront jamais, je ne pense pas.
C'est vrai, qu'est-ce qu'il a dit, monsieur?
Le plus dur, c'est la rue ou l'invisibilité?
L'invisibilité. Plus mal que la rue.
L'appel de la Fondation Abbé Pierre donné pour les aider, c'est mon actu. Sandrine Houdin, je reviens un instant sur l'information que nous vous donnions et la colère et l'incident diplomatique entre l'Europe et la Biélorussie à propos d'un avion détourné sur Minsk. Ce soir, la Commission européenne indique que l'avion qui avait été dérouté par la Biélorussie a quitté Minsk à destination de Vilnius. Au générique de cette édition, Antoine Gomez, Florent Layani en régie qui m'ont aidé à préparer ce journal, avec Lionel Thompson à la rédaction en chef, assisté de Swad Bellani et de Benjamin Ducy. Merci à l'équipe et merci à vous d'avoir écouté ce journal. La météo dans un instant.
La météo avec Air France Protect. Réservez avec la plus grande flexibilité et voyagez en toute sérénité sur l'ensemble des vols Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Jean-Michel Golinski.
Si vous avez su profiter de cette journée de dimanche, c'est tant mieux, car à partir de demain, c'est reparti pour une série de temps pluvieux dans des températures qui ne décollent toujours pas. Exemple, demain matin, il fera généralement entre 6 et 9 degrés jusqu'à 14 ou 15 autour de la Méditerranée. Des valeurs qui vont atteindre 20 degrés l'après-midi à Nice et à Bastia, 22 à 24 vers l'Hérault et les Bouches-du-Rhône, contre un maximum de 14 degrés le long de la Manche et généralement 16 à 19 sur les autres régions. Ce soir, une perturbation avec des pluies soutenues et un vent turbulent à 90 km à l'heure sur les côtes, à bord de la Bretagne, puis va gagner très vite la Normandie et les Pays de la Loire. Dans la nuit, elle va survoler une large moitié nord du pays et demain, elle va progressivement toucher le sud-ouest et les frontières de l'Est. Elle va laisser derrière elle un ciel très variable avec des averses, averses plus fréquentes et souvent orageuses en seconde partie de journée, des frontières du Benelux au nord de la Loire.
Jean-Michel Golinski de Météo France.